Bonsoir. Nous recevons ce soir, et c'est un très grand plaisir, Annie Ernaux. Nous allons nous intéresser à son œuvre, bien sûr, et tenter d'approcher avec elle cet acte qu'est l'acte d'écrire. Et c'est Raphaël Rérol, qui est rédactrice adjointe du Monde des Livres, qui nous servira de guide dans cette exploration. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée en leur compagnie.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Annie Ernaux.
Bonjour.
Je suis très heureuse de participer à ce débat avec vous, enfin de vous écouter, de vous entendre parler autour de cette question, écrire, écrire pourquoi ? Et pour deux raisons, enfin trois. La première, c'est que j'admire énormément vos livres. La deuxième, c'est que cette question du pourquoi écrire, c'est une question audacieuse. C'est la question la plus audacieuse, la plus difficile. C'est une question fondamentale et presque impossible, ou souvent évacuée comme si elle était impossible. Pourquoi on écrit ? C'est une question légitime, évidemment, mais les causes, les raisons sont si variées, surtout si profondes, qu'on a peur parfois de mettre la main dessus ou de ne pas arriver à le faire. Surtout, il y a peu d'écrivains dans le paysage de la littérature française avec lesquels il me semble aussi passionnant d'aborder cette question qu'avec vous. Non seulement vous êtes une des figures majeures de ce paysage, l'une des plus singulières, l'une des plus troublantes aussi, mais en plus, vous n'avez cessé de vous interroger sur les mécanismes de l'écriture, sur la légitimité du geste d'écriture, sur la manière de représenter le réel. Vos livres, que vous définissez vous-même comme auto-socio-biographiques, puisent largement dans vos souvenirs personnels pour dresser bien autre chose qu'un portrait personnel, justement. Au-delà de votre propre personne, cette femme née en Normandie, dans une famille modeste, puis devenue institutrice, puis agrégée de lettres, au-delà de cette femme, donc, qui s'appelle Annie Ernaux, il y a une génération, celle qui émerge, par exemple, des années, qui est votre livre que vous avez publié en 2008, une condition sociale, une suite d'expériences universelles. Il y a le rapport au père, par exemple, dans la place, à la mère, dans une femme, à la maladie de la mère, à un avortement, au passage du temps. De livre en livre, vous construisez une sorte d'autobiographie collective qui nous concerne tous. À cause de cela, vous nous touchez, ou plutôt vous touchez en nous une part d'humanité partagée, ce qui est l'un des grands rôles de la littérature. Les effets, pourtant, au sens littéraire du terme, sont réduits à leur plus simple expression. Votre écriture est dépouillée, de plus en plus dépouillée au fil des livres, elle est clinique, elle est sèche, et même, je crois que vous avez employé le terme de plat, de plate, pour définir votre écriture. La recherche de la vérité passe par un souci d'exactitude, presque maniaque, presque documentaire. Et pourtant, je le confesse, vous me faites pleurer. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors, pardonnez-moi d'entrer en matière de manière si peu orthodoxe, Annie Ernaux, mais pourquoi est-ce que vous me faites pleurer ? Et d'abord, est-ce que vous cherchez à me faire pleurer ?
Non. Non, je ne cherche jamais à faire pleurer. Ce qui se passe, c'est que j'écris, en fait, depuis quelque chose qui me touche depuis longtemps, qui sont des thèmes, qui sont des questions, qui sont des douleurs, qui sont des choses que la psychanalyse appellerait indépassables pour certaines, que ce soit le deuil d'un père ou d'une mère, un avortement, un sentiment de honte, ces choses donc qui sont enfouies et que j'essaye de mettre au jour, mais d'une façon qui soit pas en fait personnelle, pas seulement personnelle. C'est plutôt de sortir de moi-même, de regarder les choses et de les objectiver. C'est un grand mot de dire objectiver, mais ça veut dire c'est arrivé. Quels mots vont venir? Quels sont les mots qui vont pouvoir dire ça? Et là, je ne suis pas du tout dans la recherche de l'émotion. Mais quand j'écris, je sais que en moi-même, j'écris depuis quelque chose qu'on peut appeler effectivement une émotion. C'est ça le mécanisme, je crois. C'est que je ne peux pas écrire. Alors voilà, je vais dire une chose là qui m'importe beaucoup de dire. C'est que j'ai souvent, très souvent, des sollicitations pour des textes précis que on me demande, voilà, d'écrire sur telle chose. Et ce sont des violences pour moi. C'est extrêmement violent. Parce que je n'ai pas choisi, je ne pars pas de quelque chose qui est important pour moi, quelque chose qui fera que je serai dans l'écriture jusqu'au tréfonds de moi-même, que le mot, la place du mot sera importante. C'est quelque chose qui me vient de l'extérieur. Alors que toujours, absolument toujours, j'écris depuis quelque chose qui est fortement ressenti. Je vais lire un passage de La Honte et qui concerne l'écriture. J'ai plus le passage là. Bon. Donc c'est dans l'événement.
Ça y est, vous l'avez retrouvé.
J'en ai un autre passage. Oui, tout à fait.
Pendant que vous cherchez le passage.
Dans le début de l'événement, je m'interroge. J'ai commencé d'écrire sur cet événement qui est très lointain, qui date environ à l'époque de 40 ans, et cet avortement clandestin. J'ai commencé d'écrire et à un moment, je ne sais pas ce que deviendra ce texte. Je ne sais pas ce que deviendra ce texte, mais avec ce récit, c'est du temps qui s'est mis en marche et qui m'entraîne malgré moi. Je sais maintenant que je suis décidée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, de la même façon que je l'étais à 23 ans, quand j'ai déchiré le certificat de grossesse. Je veux m'immerger à nouveau dans cette période de ma vie, savoir ce qui a été trouvé là. Cette exploration s'inscrira dans la trame d'un récit seul capable de rendre un événement qui n'a été que du temps au-dedans et au-dehors de moi. Un agenda et un journal intime tenu pendant ces mois m'apporteront les repères et les preuves nécessaires à l'établissement des faits. Je m'efforcerai par-dessus tout de descendre dans chaque image jusqu'à ce que j'aie la sensation physique de la rejoindre et que quelques mots surgissent dont je puisse dire « c'est ça ». Voilà, donc c'est le « c'est ça » que j'essaye d'atteindre à travers l'écriture, mais ça veut dire aussi atteindre quelque chose qui est très fort pour moi, mais que je pourrais pas définir. Et c'est peut-être de là que de ce socle d'émotion, de ce socle de douleur, le plus souvent que de bonheur, je le reconnais, hélas, que je sors l'écriture et que peut-être alors je vous touche.
Et que vous me faites pleurer. Justement, alors je vais faire une toute petite interruption à ce moment-là du débat pour vous dire que l'écriture d'Annie Ernaux, ses livres suscitent des réactions, c'est-à-dire pas seulement des larmes, Dieu merci, mais beaucoup d'interrogations, beaucoup de désirs de communication et de partage. Donc, comme il n'y a pas de raison que je sois la seule détentrice des questions dans cette salle, hein, naturellement, nous vous laisserons du temps pour les questions, donc vous pouvez commencer de les méditer. Mais je voudrais juste faire une demande. Est-ce que les interventions qui seront les vôtres pourront être des questions et non pas des témoignages? Je dis ça parce qu'évidemment, Annie Ernaux, vous touchez toutes sortes de sujets. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a encore d'autres. Hein. Il y a la passion, dont je n'ai pas parlé, etc., qui suscite l'émotion. Et naturellement, tous les témoignages ont leur dignité. Mais si ici, on pouvait se limiter, comme on n'a pas beaucoup de temps, aux questions qui permettraient à Annie Ernaux de répondre, ce serait vraiment très bien. Voilà. Et donc, dans un petit moment, nous vous laisserons la parole. Voilà. Je voudrais revenir sur un mot que vous avez prononcé. Vous avez dit dans cette, vous avez dit aller jusqu'au bout, l'expression aller jusqu'au bout. En fait, dans cette quête comme ça d'exactitude, de vérité, de faire surgir ce qui est là, ce qui est, il y a une grande radicalité.
Quand j'emploie l'expression aller jusqu'au bout, je ne sais pas si c'est une forme de radicalité. C'est en fait d'aller jusqu'au bout du foyer les choses, de les creuser et d'en faire sortir quelque chose, c'est-à-dire de faire sortir des mots. Bon, je vais prendre, très souvent j'ai eu ce sentiment pour mes livres, c'est que quelle que soit la difficulté, quel que soit le danger, c'est ça, quel que soit le danger, j'accepte d'aller dans le noir et de terminer le livre, d'aller jusqu'au bout du livre, en dépit des difficultés profondes que je pouvais avoir. Alors, quelles sont ces difficultés ? Elles sont extrêmement différentes suivant les textes. Je vais pas parler du premier texte que j'ai écrit, Les armoires vides, parce que je sais qu'il est, il est sorti comme un cri, mais en même temps, j'en ai parlé à personne. Et je n'étais pas écrivain. Je veux dire, j'étais pas statutairement écrivain. J'ai écrit sans que personne le sache ce texte. Qui évoque la déchirure sociale de mon enfance, qui évoque mes parents, sous le couvert de la fiction, mais personne n'était au courant. Donc j'avais une immense liberté et en même temps aussi, bien sûr, un désir d'aller jusqu'au bout. Mais je parlerai plutôt des autres textes. La place, par exemple, c'était un texte, c'était important pour moi depuis plus d'une dizaine d'années d'écrire sur mon père et sur la séparation qui était venu entre lui et moi à cause de mes études, de mon changement de milieu intellectuel surtout, et c'était quelque chose donc qui continuellement me hantait et je ne trouvais pas, parce que tout est là aussi, c'est de trouver la forme, et cette forme, parce que c'est vraiment toujours de cela qu'il s'agit, cette forme elle n'est pas donnée, et mes essais que j'avais faits ne me satisfaisaient pas. C'est-à-dire que je me disais, c'est pas ça. Et j'étais dans une situation épouvantable, il faut bien le dire, parce que je n'étais pas allée au bout, justement, de ce désir de parler de mon père et de cette séparation. Donc, j'ai écrit autrement. Ça donnera la place que vous lisez maintenant. Mais là, évidemment, c'était en contradiction totale avec ce qui se lit, la façon de parler, d'écrire plutôt, sur un père. Et cette façon impersonnelle que j'ai utilisée, c'était une sorte de danger. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, c'est à la fois le contenu, si on peut dire, et la forme. Et la forme qui sera, qui va naître de quelque chose de ma vie. Ça, je le sais bien. La forme et le contenu ne peuvent pas se dissocier. Mais en même temps, c'est la forme quand même qui compte le plus et qui est la plus douloureuse à trouver.
Dans la forme, il y a une sorte de mystère qui en même temps donne la singularité et la force qui est la sienne à votre œuvre. C'est que vos livres sont inscrits non pas dans le désir de dire le moi, de dire le moi d'Annie Arnaud personnellement, mais dans celui de dire un ensemble plus vaste, de dire ce que vous... Et pourtant, vous avez choisi le jeu. Alors, comment est-ce que vous avez... Finalement, comment vous êtes déterminé pour cette forme ? Du jeu.
Commandé par le jeu. Je dis tout de même que le dernier livre n'est pas commandé par le jeu.
Hein. Oui, je parle du début. Dans la nécessité de trouver la forme. Début.
Alors, ça va être. C'est difficile de l'avouer. Mais je ne savais pas si j'allais utiliser le je ou le elle. J'ai fait quelques essais avec le L, je parle du premier livre « Les armoires vides », et ça me paraissait un personnage de roman. Je ne me sentais pas à l'aise du tout. Et là, le difficilement avouable, c'est que ne sachant tout de même pas trancher, j'ai tiré à Pelufas. Voilà la question. Et je me suis lancée avec le jeu. Et là, je me suis aperçue que je ne pouvais pas revenir en arrière. Que le jeu, c'était la forme, c'était l'énonciation, pour faire savant, qui me convenait. Et voilà, donc c'était... Mais alors évidemment, à cette époque-là, c'était un jeu qui était pour moi comme dans un roman autobiographique. Mmh. C'est-à-dire que si mon livre était édité, je pourrais toujours m'abriter derrière le fait que je, c'était Denise Le Sûr. Le jeu, c'était, c'était pas moi. J'avais inventé un personnage. Mais en réalité, c'était pas du tout un personnage inventé. C'était, comme on dirait maintenant, peut-être une autofiction, à ceci près que le jeu avait un nom et un prénom qui n'était pas le mien. Voilà. Donc ça, c'est pour mon premier texte. Mais ensuite, j'ai un texte qui est absolument charnière, qui est La femme gelée. Parce que là, le jeu n'est plus un personnage, n'a plus un autre prénom, un autre nom, et que c'est à la limite vraiment déjà un jeu qui renvoie à l'auteur, à celle qui écrit. Et ce qui a été important, c'est surtout dans la réception. C'est-à-dire que dans la réception, les lecteurs et les lectrices, alors là, n'ont pas voulu voir du tout une histoire. Ils m'ont dit, Annie Ernaux, voilà, vous dites ça, etc. Donc, j'étais vraiment mise en cause. Ça a été un livre, d'ailleurs, qui m'a mise beaucoup en cause à l'époque, La femme gelée. Et j'étais très attaquée par des femmes et des hommes, voilà. Et c'était, bien sûr, on prenait le livre comme le récit et l'analyse d'une expérience. Alors, avec la place, il y a un saut, bien sûr, parce que là, le saut, en quelque sorte, du jeu pleinement assumé, du jeu qui renvoie à la narratrice et à moi, c'est dû, en fait, à l'impossibilité de parler de mon père sans que ce soit vraiment un récit vrai. Et non pas qu'il n'y ait pas écrit roman sur la couverture. Seule la vérité était digne de la vie de mon père. La vérité était digne aussi de cette séparation entre lui et moi, et que le roman aurait été une trahison supplémentaire. C'est-à-dire que la trahison que j'évoque dans le livre, disant que je suis passée dans le monde que lui, il admirait, mais ce monde-là le méprisait plus ou moins, puisque c'était un ouvrier et un petit commerçant, et que j'étais passée dans ce monde. Donc c'est une forme de trahison. La trahison était encore, j'allais dire, multipliée dans le fait que j'étais professeure de français et que je transmettais, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus radicale quand j'ai écrit la place. Mais le sentiment de transmettre une culture qui n'était pas, qui était complètement étrangère aux élèves que j'avais devant moi. Donc, c'était une double trahison. Et si j'avais fait un roman, c'était l'ultime trahison. Et c'est avec, effectivement, la place que s'est produit un changement très, très important, puisque j'assume complètement, et ça me fait changer absolument tout, d'une certaine manière. Vous avez parlé tout à l'heure d'écriture plate. C'est dans ce livre que j'évoque une écriture... mais là, je ne veux pas dire... l'écriture plate, c'est celle... qui va rendre compte des faits. En fait, c'est une écriture factuelle dans laquelle il n'y aura pas ni commisération, ni lyrisme, simplement de dire au plus près des choses, me tenir au plus près du réel. C'est ça que ça veut dire écriture plate. Et c'est peut-être, vous avez parlé tout à l'heure de l'émotion, je pense que moins, effectivement, on est concis, plus aussi on se tient, les mots deviennent comme des choses, c'est-à-dire quelque chose de très fort, des mots comme des pierres qu'on pose les unes à côté des autres. Et à ce moment-là, ce n'est plus seulement un livre qu'on lit, je crois. C'est à la fois le réel et peut-être aussi quelque chose qui vous atteint dans votre propre vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaye de tourner autour de l'effet d'émotion dont vous me parlez. Mais je sais qu'il faut revenir au début, pourquoi le jeu, etc. Mais ça a été très important, la place. C'est un livre qui a beaucoup infléchi mon attitude vis-à-vis de l'écriture, qui m'a fait poser tout un ensemble de questions. C'est-à-dire, moi qui suis en train d'écrire, moi qui ai la chance aussi d'écrire, voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette vie qui n'est plus ? Qu'est-ce que je peux faire de vrai ? Quelle est ma place à moi ? Quelle est ma place à moi dans le texte ? Quelle est ma place à moi dans le champ littéraire ? Quelle est ma place par rapport au lecteur ? À cette époque, je pense que les lecteurs sont toujours une petite minorité de gens qui ont fait des études, qui appartiennent d'une façon ou d'une autre à des privilégiés de la culture. Et je leur donnais à voir une vie qui était justement, alors là on peut dire, au-dessous de la littérature, au-dessous de l'écriture. Et la réaction peut-être du lecteur, c'est de, on est toujours à une place pas dans un livre par rapport à ce qui est dit, et que cette place, je ne voulais pas qu'elle soit surplombante par rapport à cette existence qui, je le savais, n'était pas une existence particulière, singulière, et je ne comptais pas écrire la gloire de mon père, pas loin du monde, je pense à Pagnol, donc ce joli récit, et donc j'avais ce désir que les choses apparaissent, mais ni hautes ni basses, c'est-à-dire juste factuelles. Et c'est peut-être par là que, sans le vouloir, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de gens, de lecteurs, de lectrices qui ont eu l'impression que c'était leur propre histoire, que c'était leur propre vie. C'est des choses que j'ai beaucoup entendues, mais je ne les avais absolument pas cherchées. Voilà.
Vous me parliez tout à l'heure du passage, je crois que c'est dans Une femme, dans lequel vous avez cette expression qui a été par la suite, en dessous de la littérature, qui a été largement travestie ou réutilisée de manière tronquée. Peut-être que vous pourriez nous la lire.
Oui, alors le livre, ma mère ensuite, et ma mère est décédée quelques années après la sortie de La place. Et l'écriture qui avait été encore, en quelque sorte, c'était imprimée en moi avec La place, c'est un peu la même écriture que j'ai eue et la même démarche. Et de la même façon, il y a une interrogation sur l'écriture, c'est-à-dire comment peut-on écrire sur une mère ? C'est une entreprise difficile. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps. Elle était violente, c'était une femme qui brûlait tout, et d'évoquer en désordre des scènes où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que depuis quelques jours dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi, La femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie, est morte dans le service de gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu'il s'agit de chercher une vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. C'est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité. Mais je souhaite rester, d'une certaine façon, au-dessous de la littérature. Alors, ce que ça veut dire, au-dessous de la littérature, c'est-à-dire de ne pas avoir... de rester, au fond, dans ce lien que j'ai avec ma mère, dans ce lien, ce qu'il y a eu entre nous, dans sa présence qui est maintenant une absence. C'est être avec elle dans un lieu que, je ne sais pas, seule la littérature, c'est-à-dire l'écriture, là, peut rendre. C'est ça, je crois. C'est ce qu'il me semble.
Mais de ne pas vous trouver dans la posture de l'écrivain qui est en surplomb, c'est
oui,
ça
toujours.
Et votre manière de faire surgir ce réel, de le donner à voir, à entendre, à hauteur d'humanité, toujours, c'est ce que vous nous avez très très bien dit, de l'exposer, au fond, tel que vous l'exposez, en tout cas, c'est politique. Hein. Il y a une part politique, il me semble, là-dedans.
Je pense de toute façon que l'écriture est un acte politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que je ne crois pas du tout que ce soit une activité anodine, que ce soit... Là, je me place du non pas au moment où j'écris, mais du résultat, en quelque sorte. Hein. Mais bien que, bien entendu, l'écriture est d'abord là, mais... C'est un acte politique parce que on ne peut pas penser écrire et n'avoir aucun retentissement. Et qu'est-ce qu'on entend par retentissement? Eh bien que ça provoque une action de manière générale dans le monde, mais d'abord. Enfin, dans le monde, mais pas au sens de d'un seul coup, on va sortir dans la rue et on va crier, voilà, c'est fini les inégalités. Oui, ça faut le faire aussi, peut-être, mais c'est pas un livre qui va permettre ça. C'est pas un livre, ou alors assez rarement. Mais dans ce cas-là, c'est un livre, un essai. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Moi, je me place pas du tout dans l'essai. Mais je crois que ça a une influence, sur l'inconscient et le conscient des gens. Est-ce que ça peut... Je pense que c'est ça, c'est d'avoir une action. Mais cela dit, je n'ai jamais pensé au type d'action que ça produisait, les textes. Jamais. Je n'ai jamais pensé à cela. Ce à quoi j'ai pensé, toujours, enfin, non, ça a varié, justement, parce que c'est la difficulté d'être là ce soir et de dire en bloc qu'est-ce que ça signifie écrire, etc. Parce que, pour moi, ça n'a pas eu la même signification. Lorsque j'avais 22 ans, j'ai écrit un texte qui n'a pas été publié. Ce que signifiait pour moi écrire, c'était accéder à une vie supérieure, c'est-à-dire mais supérieure au sens profond d'une construction de moi-même, me construire à la fois comme écrivain reconnu, bien sûr, et puis en même temps faire ce qu'il y avait de plus beau pour moi. C'est-à-dire que si écrire, c'était ce qu'il y avait de plus merveilleux. Et donc, pas seulement écrire, mais de faire un livre. Bon, je tenais un journal, mais tout ça, pour moi, le journal n'avait pas d'importance. Donc, ça a beaucoup évolué. Et cette notion d'action politique, c'est bien sûr après avoir écrit et avoir vu que ça changeait. J'ai eu l'impression que des gens pouvaient avoir eu conscience de quelque chose. C'est d'avoir pris conscience de quelque chose. Et c'est les problèmes qui se posent à moi dans la vie me disent qu'ils doivent avoir une solution dans l'écriture, c'est-à-dire, là je m'exprime mal, c'est pas ça. Je veux dire, non, parce que là, dire j'ai un problème, donc je vais écrire et ça va être résolu, c'est pas ça du tout. Ce que je voulais dire, c'est que des impressions, quelque chose qui dure assez longtemps, bon, je vais reprendre le sentiment de honte, par exemple. Le sentiment de honte, c'est quelque chose qui est très, très profond pour moi, qui est la honte sociale. Et à un moment donné, je me dis qu'il faut que j'affronte le problème. Je l'affronte, je ne peux l'affronter que par l'écriture. Et c'est ça, aller jusqu'au bout. Vous voyez, je reviens un peu en désordre à vos questions, ce que ça signifie aller jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas prévu en venant ici de vous faire un exposé sur la façon d'écrire, etc., mais plutôt de tourner autour de cet acte de l'écriture qui reste malgré tout mystérieux à moi-même, mais qui est en même temps la chose la plus importante pour moi.
Aller jusqu'au bout, c'est aussi dans votre cas, et ça fait partie de la, entre guillemets, brutalité de votre écriture, enfin d'une forme de brutalité, et qui a pu être, j'imagine, mal reçue, c'est aussi nommer les choses par leur nom. C'est-à-dire, par exemple, dans Passion simple, appeler le sexe, et donner les vrais mots. Ça faisait partie, ça aussi, et ce qui est aussi une façon politique.
Oui, sans doute. Oui, bien sûr. Je crois que les deux axes principaux, ce qu'on peut appeler dans l'action politique, si vous voulez que mes textes ont quelque chose de politique, et ça, c'est conscient aussi de ma part. Ça remonte quand même assez loin. C'est premièrement tout ce qui concerne justement la place sociale de l'individu. C'est ce qu'il y a de plus important. Le privilège de la naissance, on disait autrefois, c'est-à-dire suivant là où vous êtes né, la chanson « Né quelque part », c'est ça qui conditionne. Ça conditionne toute la vie. C'est le plus important. Et donc à chaque fois, je crois que dans mes textes, il y a ça. Il est impossible qu'il n'y ait pas cela. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne effectivement les femmes. Le fait d'être une femme qui fait que j'ai souffert à un moment, c'est en fait la femme gelée, j'ai vraiment souffert d'être le deuxième sexe. Voilà. Je n'ai jamais voulu être le premier, mais de ne pas comprendre la domination masculine, de ne pas comprendre et l'écriture est un moyen justement pour moi, mais assez naturel, de rétablir une forme de, pas parler d'égalité homme-femme, mais d'écrire sans souci effectivement de ce que doit écrire une femme ou voilà c'est bon mais passion simple je ne pouvais pas l'écrire autrement, ça a pris beaucoup de temps aussi, je ne me décidais pas à aller jusqu'au bout. Oui. Il me faut du temps pour aller jusqu'au bout. Voilà.
Vous êtes obligé de vous vaincre.
Oui.
Par exemple, j'imagine que quand on écrit un livre comme Passion simple en particulier, mais d'autres aussi, qu'il doit y avoir des mécanismes d'autocensure. Comment ça marche?
Ça dépend des textes, mais il y a effectivement une rétraction de ma part. C'est-à-dire, je sais ce qu'il faut, que j'ai envie, j'ai un désir, je sais. Et en même temps, quelque part, effectivement, vous pouvez appeler ça censure, mais elle est de différentes natures. Il y a la censure la plus grande, c'est souvent celle de la forme. C'est-à-dire, passion simple, c'est une énumération de comportements.
Je vais juste dire, pour peut-être ceux qui n'auraient pas lu, que Passion simple, c'est un petit livre extrêmement intense dans lequel une narratrice prend la parole pour décrire, vous m'arrêtez si je ne fais pas une description exacte, mais décrire quelques mois de passion dans lesquels elle n'a fait qu'attendre un homme. Et donc, en fait, elle décrit l'obsession qui a été la sienne, la manière dont le temps est complètement gravité, enfin, toute sa vie a gravité autour de cet homme-là, et l'a mise dans une situation qui est socialement difficile à accepter. Enfin, c'est difficile de dire des choses comme ça. Voilà, c'est juste... Oui, voilà, pour ceux qui éventuellement... Mais il y a peut-être des aspects...
Oui, alors il y avait autre chose, c'est que je n'avais jamais écrit sur la passion. Mais d'une certaine manière, j'étais le... On va schématiser, l'écrivain social, quelque part, avec la place, une femme, les armoires vides, et la femme jolie étant à part... Et là, bien sûr, il y avait une rupture et en même temps, c'était la question d'écrire comment. Parce que je me trouvais devant une matière totalement neuve. Je n'allais pas écrire... Ouais, je savais que je n'allais pas écrire une histoire d'amour. C'est pas moi, ça. J'étais cette femme qui est traversée par une passion. Et voilà, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle pensait? Comment elle se comportait? Et c'est ça, passion simple. Voilà, je décris, mais en employant le jeu. Et en même temps, j'écris sur l'écriture aussi. Comment j'écris la passion? Bon, je n'ai pas le texte là, mais de savoir, au fond, voilà, mais j'écris sur la passion, mais j'écris sur le temps.
Moi, j'ai un petit bout de texte,
quant à moi,
et je vais vous le lire. Et parce que dans Passion simple, vous écrivez, vous faites une sorte de comparaison entre ce que provoque l'acte sexuel et ce que devrait provoquer l'écriture. Et donc, vous écrivez, il me semble que l'écriture devrait tendre, j'ai coupé la phrase, à cette impression que provoque la scène de l'acte sexuel, cette angoisse et cette stupeur, une suspension du jugement moral.
Oui.
Une stupeur.
Stupeur. Fascination. Fascination, oui. Que des livres provoquent ça, cette sorte de fascination du réel. Une sorte d'emprise. Mais bon, là, je sais pas comment... comment... Ben voilà, ça me fait... Ça me fait aller sur un passage de l'usage de la photo, qui est un texte écrit avec mon compagnon. Enfin, on a chacun nos textes on l'a écrit sans nous concerter sur des photos après l'amour des paysages que forment les vêtements. Et voilà ce que j'écris à un moment. Je m'aperçois que je suis fascinée par les photos comme je le suis depuis mon enfance par les taches de sang, de sperme, d'urine déposées sur les draps ou les vieux matelas, jetées sur les trottoirs, les taches de vin ou de nourriture incrustées dans le bois des buffets, celles du café ou de doigts gras sur les lettres d'autrefois, les taches les plus matérielles, organiques. Je me rends compte que j'attends la même chose de l'écriture. Je voudrais que les mots soient comme des taches auxquelles on ne parvient pas à s'arracher. Je fais une sorte de rapprochement, cette fascination que provoquent des choses matérielles, des taches. Je ne peux rien dire d'autre. L'écriture, j'essaie de comparer effectivement... Voilà,
ça. Je trouve que la sidération que provoquent ces tâches-là, vous arrivez quand même à vous en extraire suffisamment, à prendre la distance nécessaire pour pouvoir écrire. Écrire, c'est quand même une forme... Il faut
c'est
un moment qu'il y ait
une distance.
Ah
oui,
forcément.
Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et là, par contre, c'est très difficile d'expliquer comment ça fonctionne. Mais je reviens à l'idée de danger. Vous me parlez de
risque.
Il faut franchir quelque chose, hein, effectivement. Mais que ce qu'il faut franchir, je m'en aperçois de plus en plus tout de même, c'est d'accepter une forme nouvelle qui s'impose. Et je pense, par exemple, mon dernier livre, Les années, qui a mûri très longtemps. C'est parce que il y avait une recherche de la forme qui convienne. Et cette forme, j'ai eu du mal à l'accepter au départ, c'est-à-dire une forme complètement impersonnelle. Et pour moi qui écrivais à la première personne, voilà, ça a été quelque chose qui de différent et qui en réalité ensuite m'a porté au sens d'être soulevé effectivement par les choses que j'ai qui étaient écrites, car il y a un entraînement de l'écriture aussi.
Vous décrivez comme si vous décrivez comme si vous aviez une forme de soumission à la forme, enfin si j'ose dire, vous aviez une certaine soumission à la forme. À un moment
quelque chose se décide sans vous. Oui. À un moment la forme est plus forte et m'entraîne. Et à ce moment-là, j'ai tous les courages et surtout, je vais jusqu'au bout. Mais alors, à la fin, en général, je suis très mal parce que je sais quand même, si j'écris le livre, c'est pour qu'il soit publié. Et à ce moment-là, je me dis, c'est impubliable. Voilà, c'est impubliable.
Pourquoi ?
Alors, c'est impubliable parce que le dernier, les années, je me disais, mais on dira, mais... Qu'est-ce qu'elle est devenue folle, Annie Arnaud ? C'est pas possible. Elle a écrit un livre, mais c'est quoi ce livre ? Bon, et voilà, ça c'est une... C'est long. Passion simple, c'était... c'était... J'étais Saint-Sébastien, déjà, je voyais toutes les flèches, quoi. C'est ça, à ce moment-là, alors que j'étais allée au bout de la chose. L'usage de la photo, c'est la même chose. Voilà, il y a... Je suis poussée par quelque chose, poussée par... mais à partir d'un moment. Vers la fin, j'ai peur.
Ah oui, c'est ça. Vous n'avez pas d'inquiétude pendant. Vous êtes entraînée.
Voilà. Voilà les trois phases. La première, oh non, c'est pas bien. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon. Puis après, bon, voilà. Ah, ça y est. C'est le nuage, là. Ça, c'est bien. Je vis avec le livre. C'est bien. Puis alors, vers la fin... Oh mon Dieu, je ne vais pas me relire le début tellement c'est épouvantable. Comment j'ai écrit ça ? Mais pourquoi je suis allée au bout de ça ? Voilà.
Est-ce que vous êtes de ce genre d'écrivain qui ne montre pas ou qui montre en cours de route ?
Je ne montre jamais rien à personne. Jamais.
Et à la fin, vous apportez tout à votre
éditeur ? Et j'apporte à l'éditeur. Voilà. Ça s'est toujours passé comme ça.
C'est vrai ?
Oui. Toujours. Même... Avec Marc-Marie, l'usage de la photo. Au dernier moment, on a assemblé devant l'ordinateur, enfin les textes qui s'intercalent comme ça, mais on n'avait rien dit. Alors,
rien du tout.
Au départ, il y avait le deal en quelque sorte, c'est-à-dire voilà, on prend chacun la même photo et on écrit ce qu'on veut sur cette photo. Mais c'est tout. Non, je ne montre jamais à personne. Et le pire, c'est que si je faisais ce qu'on appelle une lecture d'une œuvre en cours, mais je ne pourrais plus écrire un mot après. Je ne pourrais plus parce que on me dirait quelque chose et ça serait voilà, j'ai l'écriture fragile d'une certaine façon, voilà.
Et solitaire.
Et solitaire.
Et alors, ce qu'il y a de très émouvant, c'est la tension entre cette solitude qui est la vôtre quand vous écrivez, et puis cette espèce de partage d'humanité qui se fait dans vos livres. Et je voudrais faire une citation que je trouve extrêmement belle de Passion simple encore. Vous dites à un moment, je me demande si je n'écris pas pour savoir si les autres ont fait ou ressentent des choses identiques.
Oui.
Juste pour ça.
Peut-être il y a effectivement peut-être quelque chose de ça, mais il n'y a pas qu'une raison d'écrire. Hein. Il y en a.
Oui, mais ça peut être une des raisons.
Oui, ça peut être une des raisons. Voilà, effectivement, puisque je l'ai écrite, ça peut effectivement être une des raisons. Seulement, je ne le sais pas quand j'écris si les autres ressentent les mêmes choses. Donc, je ne peux pas du tout en tenir compte. Ça n'a aucune. Mais je vois là à la fin de l'événement. Bon, j'ai écrit J'ai effacé la seule culpabilité que j'ai jamais éprouvée à propos de cet événement, qu'il me soit arrivé et que je n'en ai rien fait. Et ça, c'est très fort en réalité. C'est-à-dire, pour le livre Le Dernier et les Années, c'était de se dire, voilà, j'ai traversé toute une époque et je n'ai rien fait de cette traversée. Et c'est vraiment ça. Et là, j'éprouve de la culpabilité de ne pas faire quelque
chose. C'est un devoir d'écrivain ?
C'est un devoir, c'est-à-dire, et je continue alors, comme un don, voilà, je n'en ai rien fait, comme un don reçu et gaspillé. Car par-delà toutes les raisons sociales et psychologiques que je peux trouver à ce que j'ai vécu, il en est une dont je suis sûre plus que tout, les choses me sont arrivées pour que j'en rende compte. Et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres. Cette idée de dissolution, qui est en fait en même temps une idée de résurrection, je suppose.
La parabole des talents et ensuite...
voilà. Et peut-être aussi une forme de résurrection voulue. C'est très important. C'est-à-dire, au fond, c'est pourquoi suis-je venue au monde ? Et moi, j'ai l'impression de dire, mais pour pas grand-chose, pour rien. Simplement de rendre compte par l'écriture. C'est tout.
C'est déjà...
Oui, mais oui, c'est effectivement beaucoup. Mais c'est une conviction que je n'avais pas au départ. D'ailleurs, je dois dire tout de suite que je n'ai désiré vraiment écrire qu'à 20 ans et pas avant. Voilà.
Je crois que le nombre de gens qui sont dans cette salle et ceux qui sont dehors et qui n'ont pas pu rentrer sont la preuve vivante que vous n'êtes pas venu tout à fait pour rien au monde. Et comme on tient nos promesses, on peut déjà... après, je continuerai avec les questions éventuellement, mais est-ce qu'il y a déjà des personnes qui désireraient... Ah, oula, oui.
Alors, madame, j'aimerais bien savoir, je voudrais vous poser deux questions qui n'ont rien à voir. D'abord, qu'est-ce que vous sentez quand il faut s'arrêter d'écrire ? Quel est le moment qui déclenche que vous disiez, bon, ben maintenant, j'arrête ?
Je vais dire, oui, alors, ça dépend de... ça dépend du livre, de la forme du livre. C'est la forme qui impose le moment d'arrêter. Parce que l'écriture tantôt chez moi est linéaire, tantôt elle ne l'est pas. Je peux toujours rajouter des choses, par exemple. Donc, en réalité, si j'en avais la possibilité, je resterais très longtemps sur un livre. Simplement, je sais qu'il faut savoir s'arrêter parce que je ne m'arrêterai pas de corriger, de refaire, etc. D'autant plus que maintenant, avec l'ordinateur, les possibilités sont infinies. Donc, je resterai très volontiers parce que j'ai peur aussi de la publication. Je crois que vous l'avez compris. Et donc, je ne sais pas, au fond. Mais je sais, très souvent, je sais ce que sera la fin. Je sais ce que sera la fin, et donc, mais je ne sais pas au début. Mais par exemple, la fin de presque tous mes livres, elle a été rédigée avant que le livre soit fini. Donc la fin aussi impose. C'est un jeu, mais je ne le sais pas vrai. C'est instinctif aussi. Alors. Il y a le moment où il faut bien rendre le livre, tout de même. C'est ça. Mais sinon, c'est vrai que pour moi, ce serait toujours de l'infini, infiniment revisitable, remodelable. Voilà.
Et une autre question. Moi, j'entends, comme je suis journaliste, j'entends beaucoup des éditeurs et des libraires dire « Oui, c'est une puissante écriture féminine ». Alors,
bon, écoutez, là, je veux dire, ça ne. Alors là, franchement, C'est une expression exécrable. Car, qui parle, est-ce que vous avez lu quelque part, sous la plume d'un critique littéraire ou de n'importe qui, c'est une puissante écriture masculine? Jamais. Jamais. Moi, j'ai l'habitude de toujours retourner, parce que ce sont des signes, ça, de la suggestion inconsciente des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours par rapport. Et quand vous dites une écriture féminine, c'est évidemment par rapport à l'écriture sans rien autour, écriture, et là qui est, évidemment, donc, les hommes, eux, écrivent, et alors les femmes, ben voilà, c'est une autre écriture, oui. mais c'est extrêmement violent, ça, parce que ça existe toujours. Je veux dire que, plus que jamais, je crois, s'il y a des changements dans la vie des femmes, au niveau du, peut-être du partage des tâches, de l'implication des hommes dans la vie quotidienne et dans la transmission, dans l'éducation également, de s'occuper de leurs enfants. En ce qui concerne les grands schémas des représentations de la littérature, du pouvoir, c'est très largement masculin. Il y a beaucoup plus d'hommes qui publient, qui écrivent, et sont leur parole, d'une certaine manière, a plus de légitimité que celle des femmes. Bon, j'ai remarqué très souvent dans des rencontres comme celle-ci, mais Dieu merci, ça n'a pas lieu de dire. Très souvent, d'ailleurs, c'est un homme qui pose la question. Comment vous situez-vous par rapport... Alors, c'est toujours les femmes du moment où je me trouve. Alors, c'est tantôt Christine Angot. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, et jamais, je n'ai jamais entendu demander à un écrivain homme comment il se situait par rapport à un autre écrivain homme. Ça, jamais, j'ai jamais entendu. Voilà, quand on me lance là-dessus, je m'arrête difficilement.
Mais outre que je trouve que c'est tout à fait désobligeant d'essayer d'obliger un écrivain de se situer par rapport à un autre, c'est une question sotte. Je pêche par excès d'optimisme, sans doute, mais il me semble quand même que ce genre de baliverne sur l'écriture féminine, etc., ça, c'est un peu moins en vogue. On vous pose encore ça, cette question ?
Oui, oui. Mais vous savez qu'il va y avoir au Salon du Livre, j'ai refusé d'y participer, un débat sur l'écriture féminine. C'est prévu.
Ah, voilà. On va y aller.
C'est prévu. Et dans les librairies, dans des grandes librairies, il y a maintenant de nouveau un rayon littérature féminine. Oui.
Ah oui. À quel endroit?
Au grand. Moi, je vais citer. C'est le Grand Cercle à Éragny, donc toute la près de Cergy-Pontoise. C'est une grande librairie. Le Grand Cercle, c'est une librairie tout à fait intéressante et importante. Eh bien, il y a littérature féminine. Voilà.
C'est intéressant de savoir ce qu'il y a dans le rayon.
Ah bah vous avez des romancières américaines. Oui, puis il y a aussi. Oui, mais on peut dire que classer là ce qui est considéré sans doute comme une sous-littérature. Mais oui, oui. Alors il n'y a pas de littérature masculine, vous voyez. Donc
ça me donne des idées d'articles. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Oui, j'ai l'impression que actuellement. Nous sommes confrontés à un écroulement total des valeurs occidentales et que la crise monétaire qui est à côté d'une crise écologique fait que nous devons repenser totalement notre monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette position ?
Alors, écoutez, je ne vais pas vous répondre, tout simplement parce que je crois que ça mérite... On n'est pas là dans ce débat-là. Et voilà, je ne suis pour... par exemple, les valeurs occidentales, là, franchement, je dirais je m'en fous. Voilà. Mais c'est brutal ce que je vous dis. Mais c'est pas, ça n'est pas comme ça que je à brûle pour point comme ça. Justement, si j'écris, je pense que que les gens qui écrivent, c'est parce qu'on peut pas on peut pas répondre comme ça à des questions. Ou alors on est dans un débat politique et il s'agit de gens qui sont des spécialistes et qui vont analyser, développer tout cela. Mais moi, je ne suis, qu'une personne comme une autre et qui voit des choses, qui les juge, qui peut-être dans un livre en fera quelque chose. Mais je pense par exemple que évidemment il y a une vision dans mes livres, il y a une vision dans Journal du dehors, il y a une vision dans Les années, il y a une vision du monde. Mais de vous répondre comme cela, je me sentirais vraiment, à côté.
Pour revenir au thème de ce débat qui était écrire pourquoi, dans Les années justement, vous commencez par cette phrase terrible. Toutes les images disparaîtront. Et l'une des justifications les plus élémentaires de l'écriture, celle qui vient à l'esprit, c'est peut-être le souci de sauver des choses de la disparition. On a compris que vous ne vouliez pas sauver les valeurs occidentales, mais cette écriture de la perte...
Je ne vais pas vouloir les sauver. Je sais qu'en écrivant... Non, parce que c'est vrai que... Bon, écrire pour moi, c'est tout de même un petit peu me situer... En dehors. Et qu'est-ce que je vois en dehors? Et c'est là, un peu, si vous voulez, s'il n'y a pas de message dans Les années, mais bien, c'est que toutes les choses passent, se transforment. Et voilà.
Mais alors, justement, vous avez donc une écriture de la perte, on en parlait juste avant de rentrer. Finalement, quand même, une grande partie de vos livres sont consacrés au sentiment de perte. Et est-ce que vous avez le souci de sauver?
Sauver. C'est ça. C'est-à-dire, toutes les images disparaîtront. C'est des images réelles ou imaginaires qui ont traversé une époque. Et tout ça, écrire, c'est sauver ça, c'est sauver le temps. Bon, la fin, c'est sauver le temps où l'on ne sera plus jamais. Ça n'est pas forcément, mon temps, ma vie. C'est sauver tout. C'est sauver aussi bien cette femme dans le métro. En écrivant. Voilà. Je sais que je sauve pas réellement, mais c'est de garder, de conserver tout ce qui s'enfuit. Et tout ça, c'est une écriture de la perte, d'écrire pour ne pas, au fond, je crois que pour que nous n'ayons pas existé pour rien, personne. Voilà. Mmh. C'est un peu ça. Mmh. Alors les valeurs occidentales à côté, c'est pas le problème, si vous voulez. Voilà.
C'est une autre manière d'être politique, en tout cas, la vôtre. Est-ce que...
Bonsoir, madame. Docteur Planchon, président de l'association Choix Vital, Parole et Cancer. Vous voyez où je veux en venir. Dans votre livre « L'usage des mots », vous commencez de façon assez extraordinaire pour un écrivain par des photos. Est-ce à dire que le combat que vous avez mené contre la maladie, vous avez privé à ce moment-là du pouvoir des mots ?
Non. Non. Je n'ai pas été privée du pouvoir des mots. Évidemment, l'annonce du cancer, c'est un cataclysme, c'est une séparation brutale entre hier et aujourd'hui. On est d'un seul coup, avec en face de la finitude. Donc c'est un changement très très grand. C'est un bouleversement. Mais l'usage de la photo, parce que c'était, si vous voulez, dans ce moment où je peut penser que ma vie va s'arrêter. Il y a la rencontre d'un homme, il y a cette chose inouïe, imprévue, c'est que l'amour et la mort d'un seul coup sont voisines. Et je n'ai pas de C'est l'idée de la photo me vient, mais sans que je sache comment, par rapport aux mots. Je dirais même plus, c'est que j'avais toujours le pouvoir des mots, malgré tout. C'est que justement, ça a entraîné le fait que j'ai poursuivi mon projet des années, cette fois, j'allais dire sans me retourner, en me disant, de toute façon, maintenant, il faut que je continue de faire ce livre. Et l'usage de la photo, c'est un peu à côté. Mais ce qu'il y a de différent, enfin, peut-être ce que vous voulez dire, j'ai dû m'en expliquer là-dessus, dans le livre lui-même. Un jour, il m'a dit, tu n'as eu un cancer que pour l'écrire. J'ai senti qu'en un sens, il avait raison. Mais jusqu'ici, je ne pouvais pas m'y résoudre. C'est seulement en commençant d'écrire sur ces photos que j'ai pu le faire, comme si l'écriture des photos autorisait celle du cancer, qu'il y ait un lien entre les deux. Vous voyez, donc, c'est quelque chose que je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que je ne pouvais pas écrire sur le cancer seulement, et que de passer par le détour de photos me permettait de le faire. Pourquoi je ne pouvais pas le faire sur le cancer directement, comme ça? Je pense que je me méfie justement de l'émotion provoquée. Et je sais bien que le cancer, c'est sûr que à la fois ça fait peur et ça provoque de l'émotion. Et c'est un livre qui n'est pas orthodoxe, hein, l'usage de la photo, puisque pour de parler de photos que certains ont jugées pornographiques alors qu'il n'y a pas de corps dedans, et pour évoquer le cancer, ça a quelque chose évidemment peut-être qui est choquant. Et d'ailleurs, ce livre a choqué. Moi, ça m'a pas choqué. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a un lien très important entre le travail sur la forme et le travail sur soi? Et est-ce qu'il, justement, au cours du livre, il n'y a pas un travail de séparation avec la mère, le père, l'amant, le cancer? Et la publication est peut-être l'étape finale de ce travail de séparation?
La notion de travail sur soi, je ne la ressens pas, je ne la comprends pas bien. C'est-à-dire que j'ai jamais l'impression d'avoir travaillé sur moi en écrivant. Mais j'ai plutôt eu l'impression toujours de sortir de moi, de vraiment sortir. C'est-à-dire d'être, justement, de me nier en tant que femme, je veux dire au point de vue sexe, de me projeter dans une réalité autre, et que j'essaye d'atteindre. C'est toujours cette idée d'immersion dans quelque chose d'autre. Et alors, bien sûr, je vous rejoins sans doute en disant que je ne pense pas que il y ait cette idée de séparation définitive avec le père, dans le cas de la place, la mère, une femme, ou l'amant. Je crois au contraire, c'est une autre idée tout à fait, c'est que c'est peut-être, ça paraît un orgueil immense, mais je les ai fait vivre quelque part. Pourquoi? Parce que ils vont vivre sous une autre forme dans les consciences d'autres gens, d'autres personnes. Ils vont vivre sous une forme qui est sans doute, bon, quand je pense que quand quelqu'un lit Passion simple, par exemple, C'est un homme ou une femme, parce que c'est arrivé. J'ai eu beaucoup de lecteurs, de patients simples, qui sont des hommes. Il y en avait, dans les lettres sues, il y en avait plus même que de femmes, oui. Donc, il y a effectivement une image qui se forme, qui leur appartient, qui est, mais en même temps, elle a été suscitée, cette image. Et ils se mettent à éprouver des choses. C'est pas à cause de cet homme que j'ai mis en mots dans mon livre. Donc, cet homme, je lui ai donné une vie à cet homme et qui se retrouve dans la vie des autres. C'est ça, c'est l'histoire d'être le médium, la passeuse, en quelque sorte. Je n'ai pas l'impression de séparation, c'est tout le contraire même, c'est tout le contraire. Et je crois que, bien sûr que ça a été une façon, dans une femme, d'accomplir complètement mon deuil. Parce que j'ai pu avoir d'une certaine façon cette possibilité-là. À un moment, je me souviens que j'ai écrit... J'ai l'impression que c'est moi qui mets ma mère au monde. Et c'était une impression très forte. C'était vraiment une impression très, très, très grande. D'une autre façon, ça n'est plus une personne que j'ai fait vivre. Mais dans les années, c'est une époque, ce sont des années, justement, qui vont se mettre à vivre différemment dans la tête des gens, leur rappeler, ça va être un memento perpétuel de choses qu'ils avaient oubliées. C'est ça, c'est l'idée, moi écrire c'est jamais la séparation, c'est au contraire, c'est la fusion. C'est la fusion, d'une manière générale c'est la fusion avec quelque chose qu'on ne peut pas appeler le monde, la réalité, enfin... ça vient sans doute, alors là, ça vient peut-être d'un sentiment de perte, mais ça peut venir aussi d'un sentiment. Il y a un mot qui est revenu beaucoup dans mes textes, je m'en suis aperçue après, c'est le mot vide et le sentiment de ne pas avoir, d'identité. Mais bon, de toute façon, je ne crois pas à l'identité. Là, j'avais relevé là une phrase de Lévi-Strauss qui disait. C'est la société qui nous impose d'avoir une identité, mais pour moi, ce n'est guère que le lieu anonyme où il se passe des choses, et ce sont ces choses qui sont réelles, pas le lieu. Et il disait ça en 1984, et ça m'avait suffisamment frappée pour que je le recopie. C'est-à-dire que, c'est, effectivement, ça, je me sens un lieu. Je me sens un lieu de passage de choses, et voilà, donc... Voilà, j'ai rebondi beaucoup sur cette idée de séparation parce qu'effectivement, elle ne me paraît pas du tout sensible quand j'écris.
En dehors des années, vous êtes quand même un lieu qui dit « je ». C'est donc
Oui, mais c'est pas, alors là, je vais protester.
Protester, allez-y.
Oui, c'est un jeu que je ne sens pas du tout, enfin, qui n'est pas un jeu personnel. Je l'avais qualifié de transpersonnel, effectivement, parce que c'est justement en liaison avec ça. C'est un lieu qui est traversé par une passion. C'est un lieu qui est traversé par la déchirure sociale. C'est un lieu qui est traversé par la honte, qui est même à la limite. Et là, c'était le plus troublant, là, c'est-à-dire ce qui arrive au corps, c'est-à-dire. À la fois, je mets en relation, et d'ailleurs je l'avais mis dans le livre, c'est l'avortement et le cancer. C'est-à-dire quelque chose qui arrive au corps et qui est indicible, qui apparaît comme indicible, et qui met en relation, qui vous met en relation avec la vie et la mort. Avec la vie et la mort. Et voilà, c'est ça. J'évite, le jeu. Là, le jeu. Vraiment, c'est le journal. Là, c'est le journal intime. Ah oui, ça, c'est vraiment le jeu. Et je n'ai publié qu'une fois, c'est Se perdre. C'est la perte encore, là. Ouais. Voilà, c'est parce que, en réalité, C'était le pendant d'un livre, lui, concerté, d'une forme concertée, qui était Passion simple. Donc, pour montrer, en fait, la différence. C'était un petit peu ça. C'était pour montrer la différence entre les deux. Et voilà. Puis...
Et comment s'opère le va-et-vient entre le journal, justement, le journal intime, et le reste de l'œuvre ? Il y a un journal du dehors aussi.
C'est-à-dire
qu'il y a une partie du journal. Voilà, mais c'est autre chose. C'est un journal destiné à être publié. Mais le journal intime.
Pas au départ, il n'était pas destiné.
Ah oui, il n'était pas destiné.
Non, il y a beaucoup de choses que j'écris qui ne sont pas destinées à la publication dans un premier temps. Non, quelquefois il y a des choses écrites, mais je ne sais pas ce qu'elles deviendront. Et voilà, le journal du dehors, c'était le cas. Mais oui, il y a une distinction. Donc,
et le va-et-vient entre les deux, est-ce journal, que l'un nourrit l'autre.
Le journal intime et les autres textes, oui. Vous voulez dire. Je m'en sers souvent comme pièce à conviction pour les autres. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans le journal a vraiment été ressenti à un moment. Et voilà, c'est la preuve que ça a eu lieu. Et, l'idée de preuve est très très importante pour moi, et j'ai un souci effectivement de la réalité, c'est-à-dire de la trace, de ce qui est, tout à l'heure évoquer la photo, d'évoquer les tâches, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'elle a été la photo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les photos des gens, c'est pas du tout la photo artistique, ça pas du tout, c'est ça a été là de Barthes. Ça a eu lieu, ça a été là, et c'est là-dessus aussi c'est que je travaille. J'ai un souci scrupuleux de la réalité, de rechercher la réalité. Alors évidemment, les mots, quelquefois, ne conviennent pas. Les mots ont l'impression d'être une espèce de petite broderie sur les choses, et je le sens, c'est pas ça. Voilà, donc c'est ce souci de la réalité qui fait que je me sers de mon journal intime comme une preuve que à ce moment-là j'ai pensé ça, j'ai fait ça éventuellement, voilà, oui.
Il est un relais de votre mémoire.
C'est pas un relais de la mémoire, c'est pour il y a beaucoup de choses qui viennent de la mémoire qui sont pas du tout dans le journal intime, c'est pour être sûr que c'est bien ça que j'ai pensé. Par exemple, dans les années il y a pas de jeu, mais quand j'évoque sur le mode impersonnel, la première guerre du Golfe, ou bien le 11 septembre, c'est parce que j'ai dans mon journal des preuves, c'est-à-dire que je me méfie aussi de la mémoire. La mémoire n'est pas fidèle. Donc, par contre, voilà ce que j'ai pensé. J'ai mis à la forme impersonnelle, mais il y avait la réalité derrière. Voilà.
Bonsoir madame. Ce que vous avez dit il y a un instant concernant votre impression de sortir de vous-même me fait penser à ce que disait ou ce qu'écrivait plutôt Julia Kristeva à propos de Colette, de la bisexualité psychique des gens qui créent. Et Nancy Houston le dit également d'une autre façon dans un ouvrage qui s'appelle Âmes et corps, qui est un recueil d'essais divers, où elle écrit qu'effectivement, elle a la joie d'avoir une double posture, à la fois de femme et alors d'homme, qu'elle écrit avec un H, puisque l'homme est hélas l'universel. Et donc, c'est un changement de regard, en fait, lorsqu'elle vit les choses, elle est regardée, et lorsqu'elle les écrit, elle est regardante. Et donc, elle a cette capacité et elle dit qu'elle est beaucoup plus riche de cela. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Et donc, pour renvoyer définitivement, j'allais dire aux orties, cette notion débile d'écriture féminine.
Oui, je suis globalement d'accord avec ça, et notamment le fait que lorsque l'on écrit, homme ou femme, mais on est... les femmes sont effectivement regardées, hein, et elles sont surveillées, elles sont jugées, elles sont toujours... je vais faire une petite intrusion dans l'actualité, mais par exemple, c'est quand même pas un hasard si c'est... les femmes, la femme voilée en l'occurrence, qui est l'objet actuellement de tous les soucis. c'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle condense. C'est une femme qui condense tous les problèmes, des problèmes très très vastes qui sont à la fois historiques, de civilisation, etc. C'est sur la femme. Voilà, ça c'est. Voilà. Donc les femmes sont effectivement dans cette situation, mais quand on écrit, ça ne veut pas dire que l'on soit regardante. Je suis regardante, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes, lorsqu'elles écrivent, soit justement regardante, parce que quand on regarde aussi, malheureusement, avec des schémas anciens. Et voilà, on ne peut pas dire que ce que l'on va écrire soit forcément issu d'un moi pur, de toute représentation de ce que l'on a, de la façon dont on a assimilé des textes écrits par des hommes, etc. Voilà. Mais je pense que ça mériterait évidemment tout à fait un débat. Mais je veux dire, on ne va pas partir sur le débat de l'écriture féminine, effectivement. Comme vous dites, renvoyer aux orties, ce serait bien, oui.
Je crois qu'il y a une question là.
Bonsoir madame Annie Ernaux. Bonsoir. Je n'ai pas pu vous entendre pendant une heure faute de place, mais ça fait exactement de 90 que j'attendais de vous rencontrer pour vous remercier de m'avoir permis de faire des études grâce à votre livre La Place. C'était fondamental. Je sortais du certificat d'études et j'ai été projetée à l'université grâce à la validation. Et la perturbation étant tellement grande, les professeurs m'ont recommandé votre livre La Place. Et ce livre occupe une très grande place dans ma vie. Quand je pense perdre un peu les pédales, quand je pense au mode de fonctionnement occidental, les questions, le comment, du pourquoi, qu'est-ce qui te permet de... Ben, je cite Annie Ernaux, tout simplement, La Place. Donc, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui, en plus, dans le centre qui m'a permis de faire des études universitaires sans moyens, c'est-à-dire le centre Georges Pompidou. Je suis ravie que la persévérance m'ait permis de rentrer quand même et de vous rencontrer, de vous dire ces quelques mots. Je voudrais savoir où, pas pour vous faire revenir en arrière sur ce que vous avez pu dire, mais le contenu de La Place, aujourd'hui, 30 ans après, pour ainsi dire.
Je pense que ce livre, c'est pas forcément à moi d'en juger, mais par exemple, votre témoignage est important dans la mesure où nous parlions au début de l'action de l'écriture, de la littérature. Voilà, c'est... vous en êtes le témoignage. Dire quelle est son actualité de La Place, je pense qu'elle est toujours là. Elle est toujours là et que l'intérêt que les professeurs accordent à ce texte dans leur classe, il est très grand. Parce qu'il permet de servir souvent de tremplin pour une parole des élèves, la mise au jour de problèmes. Alors ça, c'est une sorte donc d'usage, d'action immédiate en quelque sorte, mais qui se prolonge. Et voilà. Donc je pense là, si votre question veut dire est-ce qu'il y a des changements dans la société ? Voilà, je dirais que certainement qu'ils ne sont pas. Je suis pas sûre qu'il y en ait tellement, mais il y a ceci sous d'autres formes, bien sûr. Je pense que le décalage culturel, la difficulté et la difficulté donc des enfants issus des milieux dominés, pour employer la terminologie bourdieusienne, eh bien, je pense que ça prend d'autres formes et que ça ne change pas. Mais là, nous sommes sur un propos politique. Mais c'est bien.
On y revient toujours. Est-ce qu'il reste des questions ou est-ce que vous avez...
Bonsoir. En fait, je voulais poser une question justement sur l'impact en fait, de Bourdieu et de son œuvre sur votre écriture, savoir quel impact ça a pu avoir justement.
C'est une longue histoire. j'ai pas écrit à cause de Bourdieu. Le désir d'écrire n'est bien antérieur. Ce qu'il y a, c'est que au début des années 70, tout à fait dans le cadre d'une sorte de remise en cause et en question de toute la société, mais de l'enseignement en particulier, dont j'étais partie prenante, j'ai lu Les Héritiers et La Reproduction, et que ça a été effectivement le déclencheur d'une nécessité. C'est-à-dire que je portais en moi un livre qui n'avait pas de forme encore depuis la mort de mon père. J'étais incitée à écrire, à me dire, voilà, il faut que, effectivement, moi je suis pas une héritière, je suis une étudiante, j'ai été une étudiante boursière. Il y a plein de choses là, il y a plein de choses, et maintenant je dois écrire. Voilà ce que je dois effectivement à Bourdieu, et ensuite. Ensuite, bien sûr, j'ai lu La Distinction, j'ai lu tous ces autres livres, Le Sens Pratique, etc. Et à chaque fois, évidemment, moi, j'avais l'impression de lire des choses qui étaient indéniables, qui étaient de l'ordre de, je veux dire, lui sur le plan scientifique, c'est-à-dire il élargissait. Non seulement le champ de la connaissance, mais en même temps, il apportait une forme de libération aussi, dont moi je sentais, c'est-à-dire que c'était, il me donnait une très très grande, il me donnait de la force de dire ce qui n'est pas forcément entendu dans la littérature. Voilà, c'était ça, et je... ça m'a accompagnée toujours, même si je ne peux pas dire que je sois totalement au fait à la hauteur même de sa réflexion philosophique, parce que c'est aussi une réflexion philosophique. Mais voilà, j'aurais. Bon, je me suis exprimée dans plusieurs articles pour ma position par rapport à Bourdieu.
Est-ce que ce sentiment, c'est un peu en référence à ce que vous venez de dire au sujet de Bourdieu et surtout à ce que vous avez dit au départ qui concernait votre sentiment de trahison, est-ce qu'au bout du compte, au point où on en est maintenant, c'est-à-dire... après ces livres, après La Place, est-ce que ce sentiment de trahison s'est éteint en vous ?
D'une certaine façon, oui, je pense, parce que l'écriture, c'est l'écriture justement qui a été là, en quelque sorte une solution. Mais oui, je pense que. Certains livres ont provoqué cela, effectivement. Donc, La Place, Une femme, La honte ont été particulièrement des livres qui, d'une certaine manière...
leur rendaient quelque chose.
Oui, rendaient justice, quelque part. Oui, c'est cela. Mais pas seulement à eux. Pas seulement à eux, c'est-à-dire au monde... au monde dans lequel je suis, mais c'est Je dirais pas que c'est sur le plan maintenant de la sur le plan de la trahison. C'est de se dire aussi que effectivement, je crois que ça a été dit par Sartre il y a bien longtemps, mais je ne sais pas si c'est Sartre, je ne me souviens plus, mais que un livre ne suffit, enfin ne suffit pas, à, je veux dire, à, ne peut rien, ou c'est Camus contre la mort d'un enfant, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Donc, je veux dire que ça a ses limites et que si on parle d'action, effectivement. Il y a quelquefois le sentiment d'être impuissant par l'écriture.
Néanmoins, quand vous écrivez le journal du dehors ou la vie extérieure, quand vous, entre autres, oui. quand vous attrapez comme ça des fragments d'existence dans le RER, à la caisse de supermarché, etc., vous faites surgir un monde, tout d'un coup vous exposez un monde qui ne s'expose oui. pas d'habitude.
Voilà, c'est exposé, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est suffisant? Non, je pense que je dissocie quand même l'écriture et puis l'action, l'engagement réel, ce qu'on appelle l'engagement réel. Voilà. Et de faire vraiment... moi, très souvent, je réagis à des choses qui se passent dans l'actualité, mais en même temps... Je me dis, mais un article, ça servira à quoi? C'est un peu ça aussi.
Qu'est-ce que c'est l'engagement réel pour vous quand ce n'est pas l'écriture? Est-ce que l'écriture est un engagement réel, non?
C'est un engagement. C'est un engagement, tout à fait. Non, c'est un engagement, mais qui ne se situe pas au même niveau qu'un engagement dans des associations, par exemple, ou vis-à-vis de problèmes précis, voilà, de qui se posent, voilà, que ce soit des sans-papiers ou un écrivain ne fait pas grève, hein.
Il ne fait pas grève, mais il montre des grévistes, hein, quelquefois. Et quelqu'un qui fait grève tout seul dans un coin sans personne en parler, pour en parler. Bon. Écoutez, en tout cas, je crois qu'on peut peut-être terminer sur ces mots et en vous remerciant infiniment de nous avoir consacré votre temps. Merci à vous.